كلامك المشتكي صيفها حي. شهدوا عليها الله ودنا دنا دنا دايني يا
C'est une série, ça, mon frère.
Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Hein. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper.
Ah bon?
Ah ouais. Pas toi?
Ouais, c'est chaud. À la radio comme à la télé, les contenus violents, on doit les éviter.
Vas-y, raconte.
Sinon, il faut en parler. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.
Vous écoutez Radio Prévert sur 105.9.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi là?
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Mais 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 qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Une émission sur l'orientation professionnelle
proposée par les 3e prépa pro du lycée Thomas Dumoret.
Bonjour à tous et bienvenue dans Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, l'émission qui met l'orientation professionnelle dans les mains de ceux qui la vivent, c'est-à-dire les élèves. Pour cette première émission de l'année 2017, nous allons aborder les métiers de l'agriculture et de l'environnement.
Au sommaire de cette émission, un reportage en forêt avec des agents de l'ONF, l'interview par téléphone d'un agriculteur, quelques formations pour travailler plus tard dans le secteur de l'agriculture et de l'environnement, l'agenda de l'orientation et deux CV audio.
Je suis aquaculteur.
Je suis agronome.
Je suis agriculteur.
Je suis apiculteur.
Je suis technicien forestier.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Aujourd'hui, je suis en compagnie de Adrien, Alan, Dylan, Jérôme et Antoine, avec qui nous avons préparé cette émission. Bonjour messieurs.
Bonjour.
En France, plus d'un million de femmes et d'hommes participant à l'activité agricole dans plus de 510 000 exploitations.
Plus de un quart des agriculteurs sont des femmes.
Près de 12 000 emplois ne sont pas pourvus dans les secteurs agricoles.
L'enseignement agricole est le second dispositif éducatif après l'éducation nationale.
Alors on chausse les bottes et un manteau chaud, on part dehors à la rencontre de ceux qui travaillent au contact dans la nature.
Et nous commençons cette émission par le reportage.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Le reportage.
La semaine dernière, il faisait déjà très froid et pourtant courageusement, nous avons visité la forêt de Marloux à côté de Drassy-le-Fort. Nous avons été accueillis par deux agents de l'ONF, Office National des Forêts, qui nous ont accompagnés à travers la forêt. Ils se sont d'abord rapidement présentés.
Ils ont ensuite présenté la forêt.
Olivier Pigneret, je suis responsable d'unité territoriale Chalon-Ouest.
Christophe Deboski, donc agent de l'Office National des Forêts. Donc à Marloux.
Là on est une équipe, l'équipe c'est 7 agents de terrain et moi, et donc on a une surface en responsabilité. On a en gros, on a 14 000 hectares de forêt.
Ils ont ensuite présenté la forêt.
Ici c'est une forêt qui est à vocation chêne. Alors même si vous voyez, il n'y a pas uniquement que du chêne, hein. Il y a aussi du charme, du tremble. Alors on essaye de maintenir aussi cette diversité. Même si ces essences-là, elles ont beaucoup moins de valeur d'un point de vue financier, mais après elles ont d'autres atouts. C'est qu'au niveau de l'humus, le mélange de feuilles de chêne, de feuilles de tremble, de feuilles de charme, ça c'est plutôt bien pour l'humus. Donc on essaye de garder en sous-étage ces charmes, ces trembles, même des merisiers, des fruitiers, des choses comme ça. C'est l'ONF, on est chargé de la... donc c'est une forêt, elle appartient à l'État, mais c'est l'Office National des Forêts qui gère et qui entretient la forêt et puis qui garde les bénéfices.
Et vous occupez de combien de parcelles?
Alors, là il y a 60 parcelles, mais moi j'ai 1600 hectares de forêt à gérer.
Puis ils nous ont expliqué en quoi consistait leur métier.
quoi consiste votre travail?
Donc c'est la mise en œuvre du régime forestier. Donc c'est les règles qui s'imposent à la forêt publique, donc la forêt publique, les forêts domaniales, les forêts communales, et c'est la mise en œuvre des documents de gestion.
Enfin, au cours de notre année de travail, il y a deux types d'activités. Il y a tout ce qui concerne l'exploitation forestière, les coupes. Donc c'est préparer les coupes et puis les vendre, surveiller l'exploitation. Hein. Donc voilà, ça c'est une grosse partie du boulot. Et puis l'autre partie, c'est tout ce qui est travaux d'investissement ou d'entretien. Donc ça c'est ce qui concerne plutôt les jeunes peuplements. Donc ça c'est les peuplements qui rapportent encore pas d'argent, où il faut faire des travaux pour permettre aux chênes ou aux douglas de tirer le dessus sur les autres essences. Voilà. Après, on a bien sûr aussi tout ce qui est, ce qu'on appelle nous le foncier, donc ce qui est surveillance des périmètres, des limites, des choses comme ça.
Le travail, il se fait là. Donc, il faut aimer marcher. Ou au moins, il ne faut pas avoir peur de marcher. Il ne faut pas avoir peur du froid. Vous voyez, hier, il faisait froid. Bah, on était en forêt toute la journée, en deux équipes. Mais on avait des opérations collectives de prévues. Demain, c'est encore le cas. Bah, demain, même s'il fait moins 8, les gens seront à leur travail. Voilà.
Voilà, puis même en condition, la pluie, le brouillard et tout. Voilà. Bon, ça, c'est les. Bah, même, il y a plein de métiers où on vit dehors. Quoi.
Voilà, mais ça, c'est pas. Dehors, forcément, ils subissent les aléas du climat. Après, nous, forestiers de terrain, on n'est pas bûcherons. Vous voyez, c'est pas nous qui coupons les arbres. Nous, on gère la forêt. Il y a le métier de bûcheron. C'est différent. Bûcheron ou ouvrier sylviculteur. Nous, on est des gestionnaires. Alors, on en a à l'ONF. On a quelques bûcherons, on a des ouvriers sylviculteurs pour faire les travaux. Nous, on prévoit les travaux et aussi on veille à ce qu'ils soient réalisés comme on l'a demandé. C'est un peu ça, c'est une partie de notre travail. Prévoir les travaux, prévoir les coupes et veiller à ce que tout soit réalisé dans le respect des règles. Aussi bien les coupes que les travaux.
Le métier de forestier, c'est vraiment...
C'est un gros avantage, c'est que les gens qui ont cette passion-là, ils ont, presque le loisir. Ils peuvent donner cours à leur passion. L'autre inconvénient, l'inconvénient qui va quasiment de pair, c'est que les gens passionnés, il y a moyen d'y consacrer un temps fou. Il y a toujours quelque chose à faire en forêt. Il y a toujours quelque chose à faire, des arbres à mesurer, des peuplements à prendre, des options de gestion, des choses à les surveiller. On peut y passer énormément de temps.
Nous les avons ensuite questionnés sur la marche à suivre pour travailler à l'ONF.
Alors, pour les forestiers de terrain, comme Christophe Delossi, lui, il a eu un parcours, il est passé par un autre établissement et après il a intégré l'ONF. Mais actuellement, pour intégrer l'ONF, donc comme agent de terrain, il faut au minimum avoir le bac. Après le bac, aller dans une école forestière pour préparer un BTS. BTS, en général, production forestière. Et ça donne juste droit à passer le concours pour rentrer à l'ONF. Alors, ça prépare au concours et ça donne le droit de le passer, c'est tout. Et donc, parmi les BTS, a priori, on prend nous ce qu'on considère être les meilleurs, qui réussissent le concours et qui intègrent l'ONF. Alors, dans les BTS, il y a... Maintenant, il y a deux voies et il y a aussi un BTS, il y a des BTS qui se font en apprentissage et en apprentissage aussi à l'ONF. C'est-à-dire qu'on prend des apprentis. Alors, il se trouve, on a les chiffres, il se trouve que statistiquement, les gens qu'on prend comme apprentis ont plus de chances de passer le concours ONF avec succès. Forcément, ils connaissent la maison, connaissent le travail, nos façons de travailler. Donc, du coup, quand ils se présentent, ils sont quasiment ils sont en terrain connu. On ne les avantage pas, ils passent le concours comme tout le monde, mais statistiquement, ils ont plus de chances d'y arriver. Alors, il n'y a pas que l'ONF qui fait de la gestion en France. Hein. Il y a des coopératives qui s'occupent des forêts privées, des experts, qui peuvent aussi employer des techniciens forestiers.
Ensuite, en rentrant un peu plus dans la forêt, ils nous ont expliqué son organisation et la fonction des parcelles.
Bon, ces petits traits-là, c'est juste pour marquer la limite de parcelles.
La forêt est divisée en plusieurs parcelles et pour les intervenants, alors ça peut être nos collègues, ça va être les entreprises, ça va être nos ouvriers, on est obligé de leur indiquer dans quelle parcelle ils doivent aller. Vous voyez, on appelle ça une ligne de parcelle, cette ligne-là. Donc ça sépare deux parties de forêt. Elles ont toutes un numéro. Et ce que mon collègue a dans les mains, c'est le document de gestion. chaque parcelle a un numéro et des actions particulières sont prévues pour chaque parcelle. C'est-à-dire que nous, forestiers de terrain, on ne fait pas ce qu'on veut. Nous, on met en œuvre un document de gestion. Alors, on a participé à sa réalisation, c'est-à-dire qu'on a fait des inventaires, on a compté des arbres.
Là, c'est le plan de la forêt domaniale de Marloux. Donc, vous êtes venu ici, à la maison forestière, et puis là, on se trouve là. Ouais. Donc là, vous avez la parcelle 55. Donc, elles sont numérotées de 1 à 60. Il y a 60 parcelles sur cette forêt. Ouais. Donc, ces parcelles, elles sont de surface égale. Donc, ça, c'est dû à un ancien type de gestion de la forêt où on coupait régulièrement la même surface sur une même forêt. Donc, il y avait trois séries. Et il y avait trois parcelles qui étaient coupées tous les ans. Hein. Il y a 60 parcelles, trois parcelles. C'était tous les 30 ans, ils passaient dans trois parcelles.
Nous les avons ensuite questionnés sur les différents travaux effectués sur les arbres de la forêt et sur leurs objectifs.
L'objectif c'est de les amener beaucoup plus gros. Celui-là, il fait à peu près 50. L'objectif ici, voilà, comme le plus gros là-bas, 80. 80 cm de diamètre dans le chêne, et c'est ce dont la filière a besoin. Plus l'arbre est gros, plus il a de valeur. Donc en fait, plus il est vieux, plus il a de valeur. Par contre, il faut du temps, voilà, c'est ça. Parce que le chêne, ça pousse lentement, donc il faut du temps.
Mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop vieux, parce qu'après, si on laisse vieillir trop longtemps, il commence à dépérir, il commence à vieillir, hein, comme pour les personnes. Et puis il commence à s'altérer, et puis plus il est altéré, moins il a de valeur. Donc nous, le but, c'est d'avoir l'optimum, où il est dans le meilleur de sa forme, où il a le plus de valeur marchande. Ouais.
Et ça met en moyenne à peu près combien de temps?
Là, on est plus sur 120-150 ans, ici. Ce qui n'est pas très long, hein, parce qu'en France, dans certains endroits, dans certaines régions, on est plutôt sur des 180-200 ans. Vous voyez, 120-150 ans, pour du chêne, c'est plutôt rapide. Donc le climat, il est lié aux régions, du sol, essentiellement du climat et du sol, et de la façon dont on les traite. Parce qu'on a un petit impact sur la vitesse de croissance, mais ce qui est vraiment déterminant, c'est le climat, le sol. Ça. Donc on est obligé de s'adapter.
De toute façon, en France,
alors hormis le climat méditerranéen qui est pour le chêne, pour ces chênes-là, souvent trop sec et trop chaud l'été, hormis le climat méditerranéen, on peut faire du chêne à peu près partout en France. Après, il y a une question d'altitude. Le chêne, alors pour faire du bois d'œuf de chêne, donc du chêne de qualité, c'est plutôt un arbre de plaine. Même s'il peut monter un peu en altitude, dès qu'il monte en altitude dans son aire de répartition naturelle, les qualités sont moindres. C'est en plaine où on fait les plus beaux chênes.
Ils nous ont aussi expliqué comment faire pousser une forêt en harmonie.
Vous voyez, le petit chêne. Si on prélève le gros et qu'on enlève les deux charmes, et ben celui-là, il a sa chance. Si on laisse comme ça, celui-là, il ne se développera jamais. Après, si on prélève le gros là, on va aussi donner sa chance à la petite tache de semis qu'il y a ici. Là-dessous, ouais, ça c'est des tout petits chênes. Si on enlève celui-là, ceux-là ils ont leur chance. Si on ne l'enlève pas, ils n'ont aucune chance de se développer. Et rapidement en fait ils vont mourir parce qu'il n'arrive pas assez de lumière au sol.
D'accord. Donc, voilà, ceux-là ils ont 2 ans.
Ouais.
Ces petits chênes-là ils ont 2 ans et puis c'est donc celui qui est derrière nous, il a probablement plus de 150 ans. Voilà.
Nous avons aussi appris comment procéder à la mesure d'un arbre dans les règles de l'art.
Mais comment vous faites pour les mesurer?
Ah ben on a des appareils. On a des appareils donc pour mesurer la hauteur, on appelle ça un dendromètre. Et autrement, alors on mesure en général la hauteur, on peut mesurer la hauteur totale, la hauteur de la grume. Et puis après, on mesure le diamètre avec un compas. J'en ai un dans ma voiture, je le sortirai. Donc c'est un grand pied à coulisse. Alors en France, on mesure le diamètre des arbres à 1,30 m de haut. Donc première chose que fait un forestier quand il veut travailler, au tout début, il mesure 1,30 m. Comme ça, il sait à son niveau à quoi correspond 1,30 m. Et on mesure toujours les arbres à la même hauteur. Si vous le mesurez là, qu'il y en a un autre qui le mesure là, c'est pas la même mesure. Donc c'est pas fiable. Et donc une fois qu'on a la hauteur et le diamètre, eh ben, on peut déterminer le volume par des formules mathématiques. Il est sur 49 cm de diamètre. Donc pour nous, c'est un 50, c'est la classe 50. Voilà. Parce qu'on travaille, en fait pas au centimètre près, on travaille ce qu'on appelle en diamètre compensé. Voilà. La classe 25, elle va de 22,5 cm à 27,5. Donc on mesure.
Oui.
Voilà, celui-là aussi, c'est un 50. Une fois qu'on a son diamètre, qu'on a sa hauteur, on peut avoir son volume. Ah, celui-là, il fait 80. Je l'ai mesuré deux fois, ce qu'on appelle on mesure en croix, et on fait la moyenne des deux mesures. C'est un 80, donc celui-là, il est arrivé, c'est à quasiment sa... Il est dans le sommet de sa valeur. Il peut encore pousser parce qu'il est plutôt bien portant. On peut encore l'emmener un peu plus loin. Après, ça sera quand le forestier passera en coupe, suivant les directives qui vont lui être données, donc en début de parcelle, c'est le forestier qui passera et qui décidera si oui ou non il le prélève ou s'il le laisse continuer à pousser. Donc un arbre comme ça, c'est plusieurs centaines d'euros, la valeur plusieurs centaines d'euros du mètre cube.
Mais que préfèrent-ils ces agents de l'ONF dans l'ensemble des tâches qui composent leur métier ?
Dans mon métier, moi, c'est le martelage, c'est le fait de marquer les arbres pour les exploiter. Et on va dire on travaille un petit peu toute l'année pour ça. On prépare tout au long de l'année, on prépare cette activité. Et puis ça, c'est un petit peu le truc final, quoi. L'arrivée dans la coupe. Et puis on aura pris des mesures dans cette coupe-là pour savoir ce qu'il y a, ce qu'on va y faire. On tient compte de l'aménagement forestier, hein, qui nous guide un petit peu dans le type de travail qu'on doit y faire. Et puis ben voilà, on va dans une parcelle comme ça, ou comme celle qui est derrière nous là, et puis on peut avoir plusieurs types de martelage. Soit c'est une parcelle qu'on veut rajeunir, soit c'est une parcelle qu'on va laisser vieillir, et dans ce cas-là, on la martellera pas de la même manière. Soit c'est une parcelle qu'on va vouloir régénérer, et donc suivant ce qu'on veut y faire, on va adapter notre martelage en fonction de ce qu'on a décidé, ce qu'on allait y faire. Et pour décider, pour prendre cette décision-là, on doit avoir avant parcouru la parcelle, avoir pris les mesures, savoir ce qu'il y a dans cette parcelle-là, pour décider de ce qu'on va y faire.
Le martelage, pour les forestiers, c'est souvent la meilleure partie du travail. Parce que c'est là où on met en place les choses. Alors, comme disait mon collègue, c'est là où on met en place les orientations de gestion qui ont été décidées. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. C'est en fait l'action du forestier au cours des martelages. Donc les martelages, c'est les opérations qui consistent à désigner et à mesurer les arbres qui vont être coupés. Et c'est là où on façonne la forêt de demain. Les décisions qu'on prend au cours du martelage, dans certains cas, elles se verront encore dans 100 ans. Donc c'est assez important.
Pour terminer la visite, nous avons repris la voiture à travers la forêt pour aller admirer le plus gros chêne de celle-ci.
Voilà le plus gros arbre de la forêt de Marlou. Donc le chêne René Fournier. Voilà, donc son âge présumé, 230 à 250 ans. Là, le diamètre 1m30, depuis que le panneau était posé, il a repoussé un petit peu, il fait 1m45 maintenant de diamètre. Donc par contre, la hauteur de grume, 9 mètres, ça n'a pas changé. Bon, puis la hauteur totale, on peut penser qu'il a pu pousser encore un petit peu, mais alors à cet âge-là, un arbre pousse relativement doucement. Il pousse très doucement.
Vous allez le couper ?
Alors non, donc là, il est pas prévu de... Cet arbre-là, c'est prévu de le conserver, de ne pas le couper. Bon, de toute façon, déjà, ça, au niveau valeur financière, là, il a dû perdre de la valeur. Parce que là, on voit au-dessus, vous voyez, il y a un trou. Vous voyez, dans la branche morte, là. Donc là, c'est un petit trou de pic. Donc il doit être creux au cœur. Donc il a encore une valeur financière, mais qui doit pas être si énorme que ça. Et non, le but, c'est pas de le couper, c'est de conserver comme ça un gros arbre jusqu'à temps qu'il meure, quoi.
Nous remercions Monsieur Pignuret et son agent de terrain. Merci à eux pour leur accueil et leur disponibilité.
On fait maintenant une petite pause musicale. On écoute Canaplantation.
J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas?
Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi là?
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Mais 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 qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Une émission sur l'orientation professionnelle
proposée par les 3e prépa pro du lycée Thomas Dumoret.
Bonjour à tous et bienvenue dans Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, l'émission qui met l'orientation professionnelle dans les mains de ceux qui la vivent, c'est-à-dire les élèves. Dans cette émission, nous allons aborder les métiers de la santé.
Au sommaire de cette émission, un reportage au centre hospitalier William Mouret de Chalon, l'interview par téléphone du kinésithérapeute, quelques informations pour travailler plus tard dans le secteur de la santé, l'agenda de l'orientation et deux CV audio.
Je suis ambulancier.
Je suis infirmier.
Je suis pédiatre.
Je suis chirurgien.
Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre, Nils, Mathéo et Alexandre, avec qui nous avons préparé cette émission. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Selon l'ONICEP, avec un peu moins de 200 000 médecins, plus de 74 000 pharmaciens, 40 000 chirurgiens dentistes et 200 000 sages-femmes, la France est l'un des pays européens le mieux doté en personnel médical.
Les études dans le domaine de la santé peuvent être exigeantes. Par exemple, il faut 5 ans pour devenir sage-femme et 11 ans pour devenir médecin spécialiste.
Mais il y a des centaines d'autres métiers dans le domaine de la santé et des dizaines de formations du CAP à Bac plus 12.
Dans tous les cas, la pratique est essentielle.
Alors, petite piqûre de rappel sur les métiers de la santé. C'est parti pour la visite médicale.
Et nous commençons donc par le reportage.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Le reportage.
Nous avons voulu savoir comment fonctionnait un service dans un hôpital. Nous nous sommes donc rendus dans l'hôpital William Mouret de Chalon à la rencontre du personnel du service de ses soins intensifs. L'hôpital accueille en continu 480 patients et emploie plus de 2300 personnes, dont 270 médecins et chirurgiens.
Nous avons donc été reçus dans le service de soins intensifs où une partie de l'équipe s'est succédée à notre micro pour se présenter et parler des métiers de l'hôpital. On commence avec la responsable du service.
Moi je suis Dominique Litton, je suis cadre de santé des services de soins intensifs de cardiologie et l'unité de soins intensifs neurovasculaires. Alors j'ai une formation d'infirmière que j'ai exercée pendant une vingtaine d'années. Et après, j'ai souhaité être plus dans l'encadrement des équipes. Donc, j'ai fait une formation de 1 an de cadre de santé pour manager les équipes, m'occuper de la gestion d'un service au niveau matériel, de la gestion aussi des patients. Je m'occupe d'organiser le personnel, la gestion des plannings. Je dois faire en sorte qu'il y ait le personnel minimum tous les jours. Donc j'organise leur temps de travail, leur poste, leur repos, leurs vacances, leurs congés. En cas d'absentéisme, je dois aussi pallier en rappelant les personnels en repos. L'autre partie du travail, c'est toute la gestion du matériel, l'entretien, les commandes un peu, enfin ça c'est répartir les tâches, la formation aussi des étudiants qui sont stagiaires, organiser leur formation, qui sont assurées principalement par les infirmières, hein, quand même.
Elle nous a ensuite parlé du nouvel hôpital et du déménagement.
Pourquoi a-t-on construit un nouvel hôpital à Chalon?
Alors, l'ancien hôpital William Mouret était quand même très ancien. Il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été rénovés, il était multipavillonnaire et ça ne correspondait plus aux besoins d'une prise en charge efficiente. Il fallait je pense réorganiser les locaux. Enfin, ça, c'était plus simple de construire quelque chose de neuf et de très fonctionnel. Ça a été un grand changement, mais bon, pour un outil très confortable, très fonctionnel, grand, large, oui, ça va. On apprécie d'être dans des locaux neufs.
Tu veux dire que vous avez déplacé tous les patients?
Oui, il a fallu organiser la mutation de tous les patients. Ça s'est organisé sur plusieurs mois. Et le jour J, tout était réfléchi depuis une semaine. L'ordre, prévoir les ambulances qui mutaient les patients un par un.
Puis nous avons rencontré une aide-soignante.
Donc, je m'appelle Catherine, je suis aide-soignante depuis une dizaine d'années. Voilà. 6 ans de cardiologie et 5 ans d'USIC-USINV. Alors nous, c'est plus avec le patient, c'est du nursing, c'est prise en charge au niveau de la toilette, les repas, les bilans d'entrée, pour les prises de tension, peau, choses. Comme ça, on aide aussi avec l'infirmier en binôme à l'installer quand il arrive, puisque c'est un service de soins intensifs, donc c'est bien spécifique. Service, soins intensifs, c'est dans l'urgence, toujours. Donc on aide avec l'infirmière à l'installer. Alors moi j'ai choisi parce que j'aime le relationnel avec les personnes. J'ai une expérience dans d'autres domaines aussi avec le contact, mais surtout dans le commerce, et qui m'a fait voir que j'étais pas faite du tout pour ça. Et suite à un licenciement, j'ai repris une reconversion professionnelle et qui m'a abouti sur le rôle d'aide-soignante. Voilà.
Et vous avez dû faire combien d'années d'études?
Oh ben juste une année. Hein. Aide-soignante, c'est correct. C'est un an et infirmier, c'est 3 ans. Donc ça reste relativement accessible pour quelqu'un qui a envie, qui veut se donner les moyens et peut-être, à un moment... À un moment de la vie, on a eu plein d'expériences et on veut essayer aussi d'apporter quelque chose dans notre vie, aux patients, aux gens.
Vous êtes plusieurs aides-soignants sur une personne ou vous êtes...
Non, on est en binôme. Nous, dans notre service, on est vraiment en binôme. On tient à le préciser et à garder cet avantage-là qu'on a un peu. C'est qu'on travaille à 4 patients. On a 4 patients pour un infirmier et une aide-soignante. Donc, on travaille toujours en binôme avec notre infirmier. C'est vraiment un secteur, enfin un service où ça bouge beaucoup, quoi. Maintenant, on peut avoir une entrée, à midi, elle part pour X raisons, on fait le départ, il y en a une autre qui arrive l'après-midi, enfin voilà, ça peut être...
C'était le témoignage d'une aide-soignante.
Puis nous avons rencontré un médecin du service qui nous a présenté son activité et nous a expliqué le parcours d'un médecin.
Donc, moi, je suis Isabelle Cusé-Sagnol, je suis médecin dans cet hôpital, cardiologue. En fait, j'ai même 2 casquettes maintenant, en cardiologie et en addictologie. J'ai un statut un peu particulier. Mon métier consiste à recevoir des personnes qui ont des problèmes de santé, à comprendre ce qui leur arrive et à mettre en œuvre ce qu'il faut pour les soigner.
Et pourquoi vous avez choisi ce métier?
Probablement pour le contact humain et la volonté de soins, probablement, de soigner.
Et quelles études avez-vous faites?
Les études médicales, donc qui durent assez longtemps, puisque ça dure au minimum 8 ans et pour un spécialiste au minimum 10 ans. Donc en ce qui me concerne, 10 ans. Le parcours d'un étudiant en médecine, c'est attaché à un centre hospitalier universitaire. Donc des centres hospitaliers universitaires, il y en a quelques-uns en France. Chalon n'est pas un centre universitaire. Donc il y a des centres universitaires dans la région, c'est Dijon, Lyon ou Besançon. Donc quand on est interne, quand on est étudiant en médecine, on est attaché à un centre universitaire, on commence son activité professionnelle en tant que stagiaire, étudiant, qu'on appelle interne, d'abord externe, tout jeune, puis interne, attaché à un centre universitaire. Et ensuite, on est, une fois la formation finie, on va travailler soit à l'hôpital, soit en libéral, soit dans une clinique, ce qui est aussi du libéral, mais en centre de soins tout de même. Donc c'est les activités qui sont différentes. Une fois qu'on est médecin, on sort de ce cadre universitaire. Et donc l'hôpital de Chalon embauche, vous avez entendu, 250 médecins.
Le médecin nous a aussi expliqué le principe de la continuité des soins.
Le travail de nuit est obligatoire dans ce métier. On ne peut pas travailler dans un centre de soins comme un hôpital sans être médecin, sans travailler la nuit. Hein, vous avez entendu aussi pour les autres personnels, il y a une continuité des soins. C'est-à-dire que la nuit, les soins continuent. Et donc, il y a forcément des personnels qui travaillent la nuit moins que le jour, mais il y en a toujours la nuit. Donc, les médecins en font partie. Et les médecins travaillent la nuit sous forme de garde. C'est-à-dire qu'ils ont leur planning de journée. Et en plus, ils ont des plannings de garde. Et ils ont l'obligation de qu'il y ait toujours un médecin en permanence dans le service dans lequel ils travaillent. Ici, par exemple, en soins intensifs de cardiologie. Et en travaillant avec le service des urgences. Les horaires médicaux sont très élastiques. On n'a pas d'horaire véritablement fixé. C'est-à-dire qu'il faut faire dans la journée de travail ce qu'on a à faire. Alors, il y a des bornes, mais c'est des bornes assez larges, on va dire. Hein. L'activité médicale souvent commence vers 8h30 le matin et se termine, on va dire, entre 18 et 20 heures, voire 21 heures, selon les besoins. Et le dimanche fait partie des obligations où il faut qu'un médecin s'en va aux soins intensifs de cardiologie, par exemple. Le médecin de la veille s'en va quand le nouveau médecin arrive, et inversement.
Ça arrive des fois de changer d'hôpital.
Elle nous a aussi parlé des difficultés du métier.
On a affaire à des personnes, éventuellement en souffrance, physique, morale. Donc oui, évidemment, on peut avoir des problèmes avec des personnes qui vont être agressives, des personnes d'ailleurs qui sont soit des personnes soignées, soit des accompagnants qui ont du mal à accepter par exemple la maladie d'une personne, voire le décès de quelqu'un de leur famille. Donc c'est ce mode de relation, cette gestion-là fait partie aussi de notre métier, parce qu'on travaille avec de l'humain, avec des relations humaines, et donc l'agressivité fait partie aussi parfois malheureusement du mode de relation.
Ça vous a déjà arrivé de faire des fautes, je veux dire, faire une faute dans votre travail.
De faire une faute, de ne pas être content du résultat de ce qu'on a mis en place, oui, certainement. Dès lors qu'il y a une affaire, que des soins ne vont pas dans le sens dans lequel on souhaite que ça aille, on a tous des réflexions sur est-ce qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait pour que ça aille bien. On fait des réunions pour discuter. D'abord, on fait des réunions pour discuter des soins en cours, pour essayer de faire le meilleur soin possible. Donc, on discute, par exemple, au niveau médical, entre médecins, mais aussi avec les équipes. Voilà, qu'est-ce qui peut être mis en place. Et quand ça n'a pas abouti du bon côté, il y a aussi des réunions pour dire, voilà, là, ça s'est mal passé. Est-ce que ça aurait pu être différemment si on avait agi différemment?
Ensuite, une infirmière d'un autre service nous a rejoint pour nous parler de son métier.
Alors, dans une journée de travail, le métier d'infirmière, donc on démarre le matin, on prend les transmissions avec nos collègues de nuit, donc qui nous racontent un petit peu ce qui s'est passé la nuit, puis l'avant-veille si on n'était pas là, avec les choses, les tâches qui a continué, la continuité des soins du patient. Ensuite, on démarre notre tour de médicaments avec l'aide-soignante parce qu'on travaille toujours avec une aide-soignante en binôme. On prend les tensions, on fait les prises de sang, on donne les médicaments. Voilà, on voit un petit peu comment la nuit s'est passée avec le patient, s'il présente des problèmes. Et puis en fonction de ce qui se passe... on avise. Voilà, si un patient a en cardio, s'il a une douleur thoracique, s'il se plaint d'avoir mal dans la poitrine, on va faire un électrocardiogramme avant même que le médecin nous demande quoi que ce soit pour pouvoir après ajuster et puis appeler s'il le faut le médecin qui est de garde. Autrement, l'après-midi, c'est un peu pareil. Là, moi, tout à l'heure, quand je vais terminer mon poste, je vais faire les transmissions avec ce qui s'est passé ce matin et puis pour que ma collègue de l'après-midi puisse poursuivre les soins. Et là, c'est pareil, elles refont un tour pour reprendre les tensions et elles revoient les patients et elles mettent en place ce qu'il faut pour continuer tous les soins qui sont nécessaires pour le patient. C'est un peu répétitif dans les tâches, on va dire, quotidiennes, parce qu'on va faire tous les matins, on va faire des prises de sang, on va faire des pansements, Tous les après-midi, on va donner les médicaments, on va faire accueillir les nouveaux patients qui arrivent des autres secteurs. Après, là où c'est différent, c'est vraiment dans la relation avec les gens, avec les patients. Et c'est là qu'elle est toute la richesse de notre métier. À la chaîne, non, je dirais pas à la chaîne. Mais parfois, c'est vrai qu'on est peut-être un peu bousculé, qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Et...
Pour finir, il ne faut pas oublier que le travail à l'hôpital, c'est d'abord un travail d'équipe.
À l'hôpital, c'est vraiment un travail d'équipe. Et d'équipe autour du patient, mais aussi d'équipe dans, je dirais, l'organisation des soins, qui est aussi quelque chose de très important, qui prend aussi beaucoup de temps pour les gens qui organisent ça, et puis vraiment en général. Et c'est ce qui fait vraiment la richesse de ces métiers, et ce qui fait que les gens, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais sont quand même assez passionnés par leur métier, même si parfois c'est dur, parce que la souffrance humaine, c'est pas facile forcément à affronter. L'infirmière, elle y va pour piquer les gens, hein, c'est pas toujours facile. D'abord, les gens sont souvent gentils. Vous avez posé des questions sur l'agressivité, mais les gens sont surtout quand même reconnaissants qu'on allège leur souffrance. Globalement, on a l'impression de rendre service aux gens. Et c'est vraiment un travail d'équipe. On peut pas, un médecin seul ne peut pas travailler sans l'infirmière, sans l'aide-soignante, sans la personne qui fait le ménage, sans la personne qui va apporter les repas, sans tout ce qu'il y a autour, sans le brancardier qui transporte les gens, sans la radiologie. Voilà, c'est tout un ensemble. On est tous dans la même, on travaille tous dans la même direction, qui est le soin de la personne qui est accueillie là.
Nous remercions l'ensemble du service des soins intensifs de l'hôpital William Moret de Chalon pour son accueil et sa disponibilité. Cette visite nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un hôpital au quotidien.
On fait maintenant une petite pause musicale. On écoute le rappeur Sokwat et son titre AVC.
Nous avons choisi cette musique qui aborde les problèmes rencontrés par une personne touchée par un AVC, un accident vasculaire cérébral. Oui.
Je vais pas bien, il faut qu'on crève l'abcès. Faut qu'on s'en sorte et pour ça il faut que je trouve l'accès. Si vous me tendez la main, me menez pas en balade. Je suis un ange et je vous raconte l'histoire d'un mec malade. Je suis paralysé, forcément du mal à dire que je subis un AVC, une drôle de maladie. Je suis conscient, je vois tout autour de moi, mais je ne peux plus parler, mon cerveau bloque ma voix. Je penche d'un côté, bouge de travers, le regard hagard. Dis d'un portrait de Picasso, mais je ne suis pas de l'art. L'artère s'est bouchée, j'ai peur, mais faut minimiser. Dans les 4 heures qui suivent, on peut encore thromboliser. Thrombolisé, remède médical, je raconte sur instrumental mon apparence d'animal. Une artère s'est bouchée, mon cerveau faut l'oxygéner. Et quand vous me voyez, dites-moi, est-ce que j'ai l'air si gêné?
Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15.
Yeah. J'entends la voix d'un ange, on me guérit là s'il vous plaît, est-ce que mon cas s'arrange? Non parce que je vois flou, j'ai l'impression d'être fou. Mais je sais qu'à l'extérieur, moi je vous parais cool. Mais faut appeler, même avec un talkie-walkie mec. Je ressens plus à rien, mort vivant chez Walking Dead. Je perds l'équilibre et je parle mal mais je ne suis pas bourré. Est-ce que je vois double? Non parce que je veux pas loucher. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale.
Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale.
Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité.
Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15.
Et vu que la vie a l'air si belle, je veux guérir, arrêter d'être si mal. J'avancerai malgré mon teint si pâle. Troquerai mes mots de tête contre des mots en syllabes. Réapprendre à lire des mots en 6 lettres. Marcher comme un homme, non pas comme une cigale.
Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15.
plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15.
Radio Prévert, c'est l'émission Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, proposée par les 3e prépa pro du lycée Thomas Dumoré. Aujourd'hui, les métiers de la santé.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
L'interview.
On va maintenant passer à l'interview et donc on est en ligne avec Mathilde Delcey.
Bonjour madame.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter rapidement s'il vous plaît?
Alors, je m'appelle Mathilde Delcey. Je vis à Dole et je suis kinésithérapeute.
Travaillez-vous en équipe?
Alors oui, je travaille en équipe à l'hôpital. Donc je travaille avec des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciennes, avec plusieurs personnes du coup qui participent à la rééducation des patients. Et puis on travaille aussi du coup avec les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes. Voilà.
Est-ce que votre métier vous plaît et pourquoi?
Oui, il me plaît beaucoup. J'ai toujours voulu être kiné depuis que je suis petite. J'aime bien prendre soin de mes patients, proposer des exercices, des choses concrètes qui leur apportent tout de suite quelque chose. Et les patients sont souvent très demandeurs de kiné pour pouvoir progresser, retrouver plus d'autonomie. Et puis dans mon travail à moi, il y a une ambiance très agréable. J'ai toujours envie d'aller au travail.
Où avez-vous fait vos études?
J'ai fait mes études à Dijon.
Et quel diplôme faut-il pour exercer ce métier?
Alors, il faut un diplôme de master kinésithérapeute diplômé d'État.
Et pouvez-vous nous raconter votre parcours professionnel?
Alors du coup, après un bac S1, j'ai fait la première année de médecine à Dijon. Il faut pouvoir être suffisamment classé à la fin de l'examen de fin d'année pour pouvoir pour intégrer l'institut de formation de master kinésithérapeute qui dure 3 ans et qui aujourd'hui dure 4 ans. Enfin, ça a changé.
Pour exercer votre métier, faut-il une bonne condition physique?
Du coup, il faut pas être un grand sportif, mais on est quand même amené à soutenir des personnes, à pas les porter, mais à les aider physiquement quand elles n'ont pas assez de force. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir les porter. Et puis en plus, on a des patients jeunes à qui on fait du renforcement musculaire, par exemple, et qu'il faut quand même pouvoir réaliser ce qu'on leur propose. Moi, j'aime pas, je propose pas un exercice à un patient si je suis pas capable de le réaliser. Et puis après, ben, on est quand même toute la journée, et l'hôpital est grand, il faut aller voir service à un autre. Donc on marche beaucoup.
Quelles sont vos conditions de travail?
Alors, avant, je travaillais à 100%. Maintenant, je travaille à 75% parce que j'ai eu une deuxième petite fille. Donc, c'est un congé, j'ai un aménagement du temps de travail, un aménagement de droit. Donc, je travaille de 8h15 à 15h15 tous les jours, sauf le mercredi. Et puis, j'ai des gardes les week-ends, à peu près une garde par mois. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on travaille le samedi matin et le dimanche matin.
Trouvez-vous votre travail difficile?
Je trouve pas que j'ai un travail difficile parce que je pense qu'il me plaît beaucoup. Ce qui est plus difficile, c'est de garder de la patience du matin jusqu'à l'après-midi pour pouvoir accompagner chaque patient avec tout ce que je peux lui apporter. C'est des gens qui souffrent souvent, donc en effet, il faut quand même être très patient.
Pouvez-vous nous raconter à quoi ressemble une journée de travail ordinaire?
Alors du coup, le matin, je commence à 8h15. On se retrouve avec tous les kinés et puis les autres professionnels. On est 8 kinés. kiné. On vérifie que chaque kiné a bien son programme qui est mis en place, son emploi du temps. Il y a souvent des personnes qui sont absentes ou qu'il faut remplacer, donc on se répartit tous les patients. On vérifie que tous les services de l'hôpital sont bien pris par les kinés. Certains patients ont besoin de deux séances par jour, d'autres n'ont besoin que d'une seule, donc on vérifie tout ça jusqu'à midi. À midi, on fait des prises en charge. Après, à midi, on s'arrête. C'est le repas jusqu'à midi 30. Et de midi 30 à 13h, on boit le café avec toutes les transmissions qu'on doit faire, des transmissions souvent informatiques. On dit ce qu'on a fait avec les patients. Et puis l'après-midi, c'est pareil. On continue de revoir tous les patients de notre service de rééducation et des services de l'hôpital. Voilà.
Comment fonctionne votre entreprise ?
Alors, du coup, moi, je travaille dans un centre hospitalier. Je suis agent de la fonction publique hospitalière. Ça fonctionne en gros comme une entreprise, dans le sens où il y a un directeur des ressources humaines, un service administratif. Il y a beaucoup de métiers du soin, c'est ce qu'on voit le plus souvent quand on va à l'hôpital, tous ceux qui sont en blouse blanche, les infirmières, les aides-soignantes, les AFH. Et puis, c'est ceux qu'on voit loin, mais qui sont indispensables pour fonctionnement de l'hôpital, comme les agents de maintenance, les cuisiniers, les gens qui font le ménage, les informaticiens, etc.
Votre travail vous laisse-t-il du temps pour d'autres activités ?
Oui, j'ai beaucoup de temps à côté. D'autant plus que moi, je travaille à 75%. Mais même quand j'étais à 100%, j'avais beaucoup de temps. Les après-midi, je finis tôt. Terminé après 2 heures, je suis libre et j'ai la chance d'avoir un travail où je ne ramène pas de travail à la maison le soir. Je n'ai pas des choses à faire en plus obligatoires pour mon travail. Ce que je fais en lien avec mon travail, c'est de la formation personnelle. Du coup, c'est agréable le soir de ne pas avoir des choses en plus à faire pour son travail. Ça ne s'accumule pas.
Avez-vous beaucoup de patients ?
J'ai pas entendu.
Avez-vous beaucoup de patients ?
Oui, j'ai beaucoup de patients toute la journée. L'hôpital, on travaille dans un centre de rééducation, donc le service il est rempli tout le temps. Donc, oui.
Qui sont-ils ?
Alors, dans le service de rééducation, où je suis la majorité du temps, c'est des gens qui ont eu souvent des problèmes d'ordre traumatique. Qu'on ait eu des fractures, des accidents, ou alors des problèmes plutôt neurologiques, comme les AVC, les maladies parkinsoniennes. Voilà, et puis on a aussi des patients dans beaucoup de services qui ont besoin de kiné. Par exemple, dans un service de pneumologie, on intervient chez des gens qui ont besoin de kiné respiratoire, parce qu'ils n'arrivent pas bien à soit cracher, soit utiliser toute la possibilité des poumons. Voilà. Et puis on intervient aussi en pédiatrie auprès des tout petits qui ont des bronchiolites. Et puis aussi chez les personnes âgées en gériatrie.
Y a-t-il beaucoup d'embauches dans le secteur en Bourgogne-Franche-Comté et en France ?
Oui. Il y a beaucoup d'embauches, que ce soit pour travailler en libéral, c'est ce que je fais dans les cabinets, que ce soit pour travailler à l'hôpital, comme je fais, il y a beaucoup d'embauches partout.
Madame Delcey, merci d'avoir répondu à nos questions. Grâce à vous, on connaît un peu mieux votre métier. Merci encore, au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Nous vous proposons cette chanson, nous allons écouter maintenant une chanson d'Aldebert qui s'intitule Hypochondriaque.
Nous vous proposons cette chanson parce qu'elle parle d'une personne qui pense être constamment malade et va à l'hôpital pour se rassurer.
La salle d'attente avec entre les mains un Figaro Madame de 1981. Je refais le test en trichant dans les cases pour me voir catégorisé fumeur à l'occasion. Je pense au pire et je transpire devant les panneaux don du sang. Appréhension du diagnostic, cirrhose du dos, mycose des dents. Il y a une très vieille grand-mère devant moi
qui m'affiche un sourire édenté mais compatissant. Je suis sûr qu'elle sait que moi ça va pas. On sourit pas comme ça à quelqu'un en bonne santé, c'est évident. Qu'est-ce qu'on est mal assis sur ces chaises enfer, les médecins sont des bourreaux, des tortionnaires. C'est à vous Madame Dufour, ça m'aurait étonné aussi qu'après seulement trois quarts d'heure, ce soit mon tour. Qu'il est bon d'être patraque, hypocon, hypocondriaque, la jérémiade en bandoulière, malade imaginaire. Bonjour jeune homme, asseyez-vous, qu'est-ce qui vous amène? Je suis fatigué docteur, j'ai mal partout depuis plus d'une semaine. Et ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Quelque chose ne va pas, ça sent le sapin, c'est ça. Tirez la langue, redressez-vous, respirez fort, courbez le dos. Vous n'avez rien du tout, ça vous fait 20 euros. Pour ce prix-là, j'aurais aimé un traitement digne de ce nom. De quoi j'ai l'air avec un tube de jus, 20 000 en prescription. Qu'il est bon d'être patraque. C'est vrai quoi, j'aurais tellement aimé arriver à la pharmacie avec une ordonnance un peu sérieuse, bien remplie, avec des noms de gélules hyper compliqués, que la pharmacienne n'arriverait pas à déchiffrer. Alors elle tirerait ses grands tiroirs à barbiturique, en maudissant les médecins et leurs écrits hiéroglyphiques. Et puis elle me recopierait la posologie sur toutes les boîtes, trois fois par jour, matin, midi, soir, au repas. Je partirais rassuré dans une quinte de tout effroyable, avec mon sac en papier, heureux et fier d'être malade. Qu'il est bon d'être patraque.
Écoutez Radio Prévert, c'est l'émission Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, proposée par les 3e Prévert Pro du lycée Thomas Dumoret. Aujourd'hui, les métiers de la santé.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Les formations.
Nous allons maintenant vous donner quelques informations sur de possibles études dans le domaine de la santé. D'abord au niveau CAP, donc 2 ans seulement après la 3e.
On a sélectionné pour vous deux CAP. Le CAP orthoprothésisté au lycée Blaise Pascal à Marseille et un CAP podo-orthoprothésiste au lycée polyvalent d'Alembert à Paris.
Pour les bacs pro, vous pouvez suivre la formation optique-lunetterie au CFA de l'optique à Paris ou celle de prothésiste dentaire à l'académie Isabelle Dutel à Lyon.
Pour les études supérieures, une formation de FCIL, secrétariat médico-social, est proposée au lycée Magenta à Villeurbanne, ou une formation en pharmacie hospitalier à Lyon.
Enfin, d'autres formations sont possibles, comme par exemple un BP préparateur en pharmacie à Niort, sur le campus des métiers.
Merci messieurs, on passe maintenant à l'agenda.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?
L'agenda.
Alors, quelques informations sur les dates à retenir pour l'orientation ce mois-ci.
Tout d'abord, attention, c'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire pour le certificat de formation générale, le CFG.
Les admissions post-bac se font du 20 janvier au 20 mars pour les élèves qui veulent faire des études supérieures.
Au lycée Émile Angotet de Chalon, les portes ouvertes se déroulent le 10 mars.
Les portes ouvertes au lycée Léon Blum au Creusot seront le 17 mars.
Merci messieurs, on passe maintenant à notre dernière rubrique, ce que je veux dire de moi.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Ce que je veux dire de moi.
Ce mois-ci, nous vous proposons deux portraits d'élèves de la classe, Alexandre et Nils. On commence par celui de Nils.
Je m'appelle Nils Lanner, j'ai 14 ans. Cette année, je suis en 3e prépa pro au lycée Thomas Dumoret à Chalon-sur-Saône. J'avais choisi de faire ma 3e là-bas parce que je ne connaissais pas mon orientation et ce lycée m'a permis de savoir car on fait des découvertes professionnelles. Je fais du foot, je sors avec mes potes et je fais de la moto. Je suis patient, créatif et convivial. Je suis timide la première fois que je rencontre quelqu'un, mais après ça va mieux. J'aime travailler confortablement, au chaud, en équipe. J'aime quand on fait chacun notre travail et on réunit tout ce qu'on fait pour former un menu. L'an prochain, je veux aller au CIFA de Mercurey pour apprendre la cuisine. Plus tard, je veux être chef cuisinier. Le monde professionnel pour moi, cela signifie devenir un adulte, être dans la vraie vie du travail, gagner de l'argent, nourrir ma famille.
Je pense aux frères qu'on nous a pris. Y'a qu'au vrai, je tape la bise.
Nils avait choisi d'illustrer son portrait avec la musique du rappeur Ornette La Frappe et de son titre Novi. On écoute maintenant celui d'Alexandre.
Je m'appelle Alexandre Collier, j'ai 15 ans. Cette année, je suis en 3e prépa pro au lycée Thomas Dumoret à Chalon-sur-Saône. J'avais choisi de faire ma 3e là-bas parce que j'avais de mauvais résultats au collège. Mes loisirs sont le vélo et les jeux vidéo. Je suis concentré et observateur. J'aime travailler sur l'ordinateur et en entreprise. L'an prochain, je veux faire un bac pro en informatique. Plus tard, je veux être administrateur de base de données. Le monde professionnel pour moi signifie avoir une paye, une maison, une famille.
Et le portrait d'Alexandre était proposé sur une musique de Korn. Le titre est Hackers.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie attentivement. Nous espérons que vous en savez plus sur le métier de la santé.
Cette émission a été préparée par Alexandre, Nils, Mathéo et Alexandre. Aidée de Monsieur Boggio, professeur documentaliste au lycée Thomas Dumoret.
Vous avez écouté AVC de Socrate et Hypochondriac d'Aldebert.
Le générique de l'émission a été réalisé à partir du titre Zénith du groupe OPA pour auboutdufil.com. Merci à Radio Prévert de nous accueillir. À très bientôt.
Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez votre orientation en main.
Au revoir.
Au revoir.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Mais 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 qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Mais 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 qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Je quitte mon père, la ville attend les petits rats des champs. Une jolie fermière me dit où vas-tu, monte derrière avec les laitues. Les pieds dans le ciel, chez les hirondelles, nous filons doux et la route est à nous. Petit, ta vie est belle à l'école buissonnière. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts, quel âge as-tu toi? Au petit matin, nous voilà en ville, j'ai déjà faim comme un crocodile. J'ai beau demander un café au lait, on me donne rien, même un morceau de pain. La campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons.